Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce premier numéro de Bonne Pioche, l'émission thématique et culturelle consacrée aux jeux de société. Pour mon baptême radiophonique, j'ai décidé en toute modestie de vous parler d'une intervention du chiffre sacré qu'est le chiffre 3. En effet, le chiffre 3 revêt dans de nombreux contextes une signification sacrée, que ce soit dans la Trinité chrétienne, le Trimurti hindou, la Triforce dans la licence de Legend of Zelda ou le nombre de pays du Benelux. Les jeux de société n'échappent pas à cette règle. Mais de quoi suis-je en train de parler, que diable, êtes-vous en train de vous demander ? Je vous parle d'une petite triade qui se glisse sur les boîtes de jeux de société sous la forme de pictogrammes avec des chiffres. Elle peut être sur le devant de la boîte, sur le derrière, sur le côté. Elle est discrète, mais pour qui la cherche, elle est très facile à trouver. Je vous parle du trio informatif incluant le nombre de joueurs, la fourchette d'âge pour jouer au jeu et la durée d'une partie type. Tous les jeux que vous vous procurez dans n'importe quel magasin de jeux posséderont non pas deux, non pas quatre, mais trois pictogrammes, ce trio légendaire qui ne varie que par l'ordre de présentation, ce qui fait en tout six possibilités. Voilà, le public matheux est charmé. Plus sérieusement, ce trio constitue une excellente introduction pour le joueur néophyte qui ne connaît rien de la boîte qu'il a entre les mains et permet de se familiariser et de savoir à qui on a affaire. Voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer ma première émission à ce petit trio que je vais vous présenter dans l'ordre, selon moi, du moins au plus important. Numéro 1, la fourchette d'âge, indiquée généralement par un pictogramme présentant un petit et un grand monsieur. Qui dit fourchette, dit intervalle, dit borne, dit âge minimal et âge maximal. L'âge minimal dépend du degré de maturité qu'exige le jeu. Ainsi, si le classique 1000 bornes d'Edmond Dujardin ne requiert du joueur qu'il ait atteint que sa sixième année, des jeux plus complexes tels que le mythique Seven Wonders d'Antoine Bozza exigent du joueur ses 10 ans. Surprenamment, les jeux affichant les plus gros scores sont les jeux de culture générale, surtout les jeux de culture littéraire, qui attendent de leurs joueurs qu'ils aient atteint presque leur majorité, hein. On parle de 14, 15, 16 ans. Alors faites attention, cette indication est purement indicative. Et dans les familles de joueurs, il n'est pas rare que le petit ou la petite dernière, âgé seulement de 7 ans, s'essaie au jeu de ses aînés 11 ans et plus. Dans l'autre sens, donc pour l'âge maximal, c'est le concours entre les éditeurs à celui qui s'en tirera le plus honorablement. En effet, chaque être humain a un vieillissement qui lui est propre, la sénilité arrive ou n'arrive pas, quand elle arrive, pas au même âge, et fixer une borne maximale à l'intervalle relève du défi presque insolvable. Alors voyons voir comment s'en sortent nos chers éditeurs. Première solution, eh bien, vous doublez votre âge minimal. Ainsi, un jeu à partir de 7 ans devient un jeu de 7 à 77 ans. Attention, cette astuce devient caduque à partir de 10, à moins que vous vouliez passer pour l'idiot de service qui propose un jeu de 10 à 1010 ans. Deuxième solution, bloquez le compteur à 99, un jeu de 7 à 99 ans. Mais là, qui vous excluez ? Vous excluez ces pauvres centenaires qui ont bravé la vie un siècle durant et qui se retrouvent privés du jour au lendemain de leur jeu préféré. Troisièmement, ajoutez 100 à l'âge minimal. Élégant, pas mal. Ainsi, un jeu à partir de 4 ans devient un jeu de 4 à 104 ans. Mais l'astuce que moi je préfère, c'est rajouter un simple plus après l'âge minimal. Ainsi, vous ouvrez votre intervalle à l'infini et n'excluez dès lors aucun joueur d'une expérience ludique. Deuxième critère, la durée de la partie, indiquée généralement, du point de vue du pictogramme, par un sablier ou une horloge. Elle est très utile, surtout pour qui veut affiner son planning à la minute près. On distingue trois types de jeux. Les jeux normaux, dont la durée s'échelonne entre 30 minutes et 60 minutes, et qui constituent très facilement 70% de ma collection de jeux. Les jeux fleuves, qui durent plus d'une heure, comme le Catan de Klaus Teuber. Il faut prévoir du temps pour jouer à ce genre de jeu, mais on est généralement récompensé. Et les jeux éclairs, qui durent moins de 30 minutes, comme Timeline de Frédéric Henry, et qui ont pour vocation d'être répétés, qu'une session soit constituée de plusieurs parties de revanche, et ainsi de suite. Alors, il faut bien se rappeler que ce sont des valeurs moyennes, à un seul chiffre significatif, bien que certains jeux s'essaient aux deux chiffres significatifs. C'est le cas du Mysterium d'Oleksandr Nevsky ou d'Oleg Sidorenko qui promettent une partie d'exactement 42 minutes. 42 minutes calculées comme cette fois des manches de 6 minutes. Et enfin, le plus important à mes yeux, le clé, le nombre de joueurs. Alors, pourquoi est-ce pour moi le plus important ? Chaque jeu a sa politique, sa réponse propre en ce qui concerne l'effectif nécessaire. Et si vous pouvez, pour un jeu de 7 à 77 ans, inviter votre petite sœur de 6 ans et votre mamie de 78 ans, si vous pouvez prendre une journée de RTT pour être sûr d'avoir le temps de finir un jeu de 30 minutes, vous ne pouvez pas faire grand-chose si il vous manque un joueur. Vous ne pouvez pas le faire apparaître par magie, et à l'inverse, il est fortement impoli de virer un joueur parce que, prétexte, c'est un jeu à 6 joueurs et t'es le 7ème. Voyons voir comment les jeux se comportent. Il y a d'abord les jeux qui exigent un nombre fixe de joueurs. C'est le cas d'Intrigue à Venise de Léo Colorivi et d'Alex Randolph qui se joue à exactement 4 joueurs. Alors pourquoi 4 joueurs ? C'est un jeu dans lequel s'affrontent deux duos d'espions, Lord Fiddlebottom et le colonel Bubble, j'adore ce nom, contre Agent X et Madame Tatsa. Et enlever ou rajouter un joueur casserait complètement la structure même du jeu. Il y a les jeux qui exigent un minimum, une certaine assemblée. C'est le cas des loups-garous de tiers lieu de Philippe de Palière et Hervé Marly, qui exigent 8 joueurs minimum. Et effectivement, pour ceux et celles qui ont déjà essayé de jouer à ce jeu à moins de 8, on déchante très vite. Enfin, il y a les jeux avec un maximum de joueurs, ce maximum étant souvent dû à des raisons matérielles. C'est le cas du Carcassonne de Klaus-Jürgen Wred, qui peut être joué à 5 joueurs maximum. Pourquoi ? Car si vous rajoutez un 6ème joueur, le créateur du jeu n'ayant prévu que des jetons rouge, jaune, vert, bleu et noir, votre 6ème joueur se retrouverait sans jetons et donc dans l'incapacité de jouer. Mais faites attention, chers auditeurs, car certaines indications sont mensongères. Alors, mensongères dans quel sens ? Certains jeux vous promettent une fourchette très large, allant du très petit effectif au très grand effectif, mais dans la réalité, quand vous atteignez les extrêmes, ça perd tout son intérêt. Un exemple tiré de mon expérience récente de jeu, c'est le Dixit de Jean-Louis Roubira, qui vous promet des parties de 3 à 6 joueurs. Oui, oui, mais sauf que essayez de jouer à 3 joueurs. On utilise des règles biscornues où les joueurs donnent plusieurs cartes, ou ainsi ils sont au courant non pas d'une mais de 2 cartes, et très vite, le jeu devient caduque. Une bonne partie de Dixit, c'est à partir de 4 joueurs, un point c'est tout. En moyenne, si vous voulez avoir une partie convenable dans n'importe quel jeu, constituez-vous une associée de 4 à 5 personnes. C'est le nombre passe-partout qui vous permettra de jouer à presque 90% des jeux existants. Voilà, s'achève ce premier numéro de Bonne Pioche, où pour vous introduire mon émission, je vous ai montré ce trio qui permet de vous introduire un jeu en quelques petites statistiques. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute et portez-vous bien.